RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, qui est avec nous et avec vous aujourd'hui dans les GG. Charles Consigny, avocat, avec Joël Dagosséry, coach de vie, avec le consultant auprès des entreprises Antoine Dierce. Beaucoup de discussions encore à avoir dans les GG, dans les grandes gueules, avec vous au 32-16, notamment la première qui va venir concernant François Ruffin.
RMC, les grandes gueules.
C'est un, en fait, c'est une petite info qui est donnée par Libération. Les équipes de François Ruffin ont commandé un sondage pour savoir comment il se positionnerait dans l'élection présidentielle, François Ruffin.
Oui, c'est l'Institut Cluster qui a répondu à cette demande des équipes de François Ruffin. Alors déjà, cela confirme que François Ruffin pense très nettement à la présidentielle. Parce que si tu commandes un sondage pour savoir si tu ferais un bon score à la présidentielle, c'est que tu es en train de te préparer, quoi. Donc ça, c'est une confirmation, déjà. Et selon, donc, ce sondage commandé par Picardie Debout, François Ruffin se qualifierait assez facilement pour le deuxième tour. Il passerait devant Édouard Philippe. Il ferait 29%. Donc il se retrouverait face à Marine Le Pen. Et au deuxième tour, les deux candidats, selon l'Institut Cluster, se retrouveraient au coude à coude avec 50% des voix. Alors, est-ce qu'on y croit ? Est-ce que Ruffin... Alors, le sondage prend l'hypothèse que Ruffin arrive à rassembler toute la gauche. Parce qu'effectivement, si vous avez une gauche divisée, il y a, la gauche ne passe pas le premier tour. Mais donc, il serait le candidat de la gauche réunie, il ferait 29% qualifié, et il ferait à 50-50. Est-ce que ce scénario, vous y croyez à ce scénario ?
Oui, moi, je trouve pas ça absurde. Ça fait longtemps que je pense que François Ruffin pense à la présidentielle. Ça n'entame pas sa sincérité, mais je crois quand même que tout ce qu'il fait depuis très longtemps est orienté vers cet objectif. Je pense qu'on sous-estime le nombre de gens qui sont dans ce genre de démarche, et je pense que y compris ses films. C'est toute son œuvre, je pense, est tournée vers ça. Et il attend, à mon avis, simplement que Mélenchon fasse la preuve définitive du fait qu'il est trop vieux ou trop excessif ou que sais-je pour concourir de nouveau. Et qu'en tout cas, il inquiète trop les Français pour pouvoir être élu, pour le doubler le moment venu. Ça, je pense que c'est possible. En revanche, ce que je crois aussi, c'est que il faudra qu'il, s'il veut vraiment y arriver, mais il a commencé. Je me souviens de cette une de l'Obs où il proclamait en une « Je suis social-démocrate », etc. Il a un chantier pour rassurer les gens. Parce que ça reste, à mon avis, aux yeux de beaucoup de Français, ça reste l'extrême-gauche. Et donc, je pense qu'il peut être battu par Marine Le Pen. Et je pense que beaucoup de gens qui font le pari que parce qu'il serait face à Marine Le Pen, il gagnerait forcément, se trompent. Parce que je crois que maintenant... Marine Le Pen inquiète beaucoup moins. Je l'ai d'ailleurs vu, je le dis en passant, mais j'étais assez fasciné quand même ce week-end de la voir en tenue traditionnelle à Mayotte, haranguer les foules comme une espèce de chef tribal. Je trouvais ça assez impressionnant et ça montre qu'elle a quand même une certaine énergie. Donc voilà, je pense que c'est pas gagné d'avance parce qu'il serait face à Marine Le Pen. En revanche, là où, pareil, son profil me paraît politiquement intéressant depuis longtemps et surtout singulièrement, en fait, par rapport à Macron, c'est qu'il est un peu l'exact contraire de Macron. C'est-à-dire que là où Macron a eu quand même, à la fin des fins, une politique assez pro-riche, pro-business, disons, mais quand même...
France qui va bien.
Mais quand même, du coup, très France qui va bien, très très Peugeot 3008 rutilante, pour pas dire Porsche Cayenne, dans l'Ouest.
C'est pas le même prix.
Très la boule. La boule,
Macron.
Oui, c'est... Bah, oui, enfin, c'est plus à droite, à mon avis. Mais bon, il y a une
très pull sur les épaules.
Oh, mais ça revient à la mode.
Oh, PSE. Oui,
les jeunes, comment tu les appelles, Welsh.
Les Welsh. Je pense que Emmanuel Macron aura été quand même, malgré tout, le président d'une certaine injustice.
Alors,
et je crois que du coup, Ruffin peut. Je pense qu'il peut incarner une alternance, oui, par rapport à ça.
Tu crois ce sondage ?
Alors, moi, j'aime bien Ruffin. Parce que c'est la vraie gauche. Je suis d'accord avec rien sur lui, mais c'est les bons cocos à l'ancienne avec qui on peut s'entendre parce qu'ils sont pas taré. Je vous rappelle un truc. En 2023, François Ruffin disait « Je crois pas que ce soit urgent de faciliter le changement de sexe dans l'état civil. » Il avait dit ça à la télé. Le lendemain, enfin, tout LFI lui était tombé dessus. Et le lendemain, il devait s'excuser. « Je dois encore progresser en matière de genre, etc. »
Et de wokisme.
Bon, bref, en matière de wokisme, voilà. François Ruffin, c'est un mec normal, de gauche, j'ai rien à voir avec lui, mais il est pas aussi fou que les autres à LFI. Sauf que il fait un pari qui me semble absolument dingue. Il fait le pari que LFI serait une démocratie. Que on pourrait peut-être avoir un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI. Mmh. Et là, pardon,
ça peut être
monsieur
plus
Ruffin,
qu'LFI.
Ça va pas marcher. Donc la seule
ça peut
option
être une union de la gauche.
Alors voilà, la seule option, c'est un Ruffin dans une union de la gauche. Dans une reconstruction de la gauche, ouais. Mais dans ces cas-là, ce sera pas lui le leader. Ça n'a jamais été les cocos qui sont les chefs.
Mais justement, il fait des unes de l'Obs pour expliquer qu'il est social-démocrate.
On a un Glucksmann qui sera probablement mieux placé.
Mais Glucksmann est de droite. Glucksmann est un bourgeois. Glucksmann ne réunira pas la gauche.
Pardon, moi qui suis de droite, je peux te dire que Glucksmann
n'est pas de droite. Glucksmann est un bobo. Ça réunira pas la gauche. Ça ne réunira pas la
ça
gauche. Les gens de gauche ont envie, moi j'en connais plein, ils veulent une vraie gauche. Alors, ils veulent un truc qui cogne.
Alors en revanche, moi je suis très
heureux. Les gens de droite veulent la vraie droite.
Mais oui.
Je suis très heureux que Ruffin y aille parce que c'est la certitude de diviser la gauche et LFI faisait déjà plus très peur, mais si en plus ils partent divisés, alors là c'est bon, on est tranquille et Marine Le Pen sera élue.
Non mais moi c'est tout ce que j'adore. J'adore quand la politique se transforme en Dallas et là on commence à toucher du doigt.
Dallas à Amiens là. Hein.
Mais tu vois quand Charles disait qu'il avait rien à voir, quand Charles disait qu'il avait rien à voir avec Macron, c'était l'exact contraire. Je trouve qu'ils sont très ressemblants. D'ailleurs ils viennent du même endroit, ils ont fait à peu près je crois la même école et la démarche est un peu similaire. Le fait de commander un sondage, de l'afficher sur Libération, c'est un peu de forcer la main, un peu comme Macron l'avait fait avec Hollande, c'est-à-dire c'est de forcer la main à Mélenchon pour qu'il recule et qu'il, à la fin, se désiste et qu'il lui laisse la place. Parce qu'en fait, il lui dit de manière subliminale, c'est moi, je suis le premier, c'est moi qu'on m'aime, etc. Donc je crois que je vois dans la démarche quelque chose, une stratégie qui est plutôt, pour moi, bien élaborée. Et ensuite, je rejoins complètement ce que vient de dire Antoine. Pour moi, c'est la gauche, Ruffin. Alors, je ne vais même pas dire la gauche raisonnable, quoi, parce qu'en fait, comme Mélenchon, ils sont partis tellement loin que du coup, il paraît raisonnable. Mais en fait, c'est de la gauche normale. C'est de la gauche normale, de la gauche qui porte de vrais combats, qui s'intéresse aux vrais gens, comme il l'a fait avec les femmes de ménage. Il est allé jusqu'à ne pas voter sa propre loi, parce qu'en fait, elle avait été vidée de tout son sens par la Renaissance. Oui. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui.
Mais après, c'est des gens très dangereux.
Après,
oui, mais.
Sincèrement, c'est
des gens très dangereux.
Pourquoi Ruffin, il plaît? Parce que c'est l'histoire du bon flic et du mauvais flic à gauche. Le bad cop en ce moment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a encore dérapé il y a quelques jours en comparant le président de l'université de Lille à un nazi, à Eichmann. Hein. Il a quand même comparé ce pauvre président de l'université de Lille qui a eu le malheur d'annuler sa conférence à Eichmann. Ouais. Donc on a un Jean-Luc Mélenchon qui est en plein naufrage. Ouais. Et donc Ruffin paraît forcément très sympathique. Mmh. Mais le jour où Mélenchon sera éliminé de la course, pardon, mais François Ruffin va-t-il convaincre sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie?
Mais attends, je te dis pas l'élection
présidentielle aujourd'hui, c'est le senior.
Je te dis pas qu'il va convaincre, mais il est de gauche sur ces questions là
Mais Olivier, le senior ne vote ne confiera jamais ses économies à François.
Mais d'autant que quand tu regardes le détail,
Joël finit.
Je dis pas qu'il va convaincre sur le plan de l'immigration, de la sécurité, non, puisqu'il a des positions de gauche, donc il a des vraies positions de gauche en la matière, mais
qui sont très minoritaires en ce moment dans le pays.
Là on lui reproche, moi je sais que les gens de LFI, certains gens lui reproche de ne pas avoir fait la marche contre l'islamophobie, donc du coup, il ne serait pas vraiment de gauche. Non, je ne considère pas qu'être de gauche, c'est aller dans une marche contre l'islamophobie.
Ça n'intéresse que les débats de gauche.
Oui, mais
les Français ne sont pas dans ces querelles. Les Français, ils verront le programme de Ruffin, ils diront oh là là, il veut plus d'impôts, oh là là. Alors, l'immigration, c'est une chance pour la France, oh là là. La sécurité, c'est un sentiment d'insécurité.
Il ne s'exprime pas, je pense, en termes de chance pour la France ou quoi que ce soit. Les Français ont bien voté pour Hollande. Enfin, je veux dire, ils ont bien confié leurs économies à Hollande.
C'était en 2012.
D'accord.
C'était face à Sarko.
Mais quand tu regardes
on
que,
est 12 ans
que
après.
On enlève le plan sécuritaire, mais Marine Le Pen a récupéré les voix de la gauche ouvrière. Voilà. François Ruffin, il est exactement sur cette lignée. Donc sur ce plan-là, il peut gratter quelques voix.
Les retraités qui sont déjà inquiets pour leur économie, leur épargne, ils vont pas confier les clés du coffre-fort à un François Ruffin.
Et surtout, c'est un révolutionnaire. Il faut lire les témoignages de son ex. Son ex a écrit un livre à charge contre lui pour expliquer en gros que dans une relation amoureuse, parfois, il y en a un qui est plus amoureux que l'autre. Enfin bon, elle a découvert la lune. Et c'est intéressant, toutes ces femmes qui disent « Oh, j'étais sous emprise, j'étais amoureuse de lui. » Bah oui, chérie.
Ça s'appelle l'emprise.
Elle explique les dîners avec les gens de Fakir, etc., qui était le journal de Ruffin. Mmh. Moi, je trouve que quand on lit ça, on voit que ce sont des révolutionnaires. À mon sens, dangereux.
Je pense qu'elles le sont.
Donc, c'est pour ça que je dis qu'il peut être battu par Marine Le Pen. Mmh, c'est qu'ils se rendent pas compte tous que la peur des révolutionnaires fera plus peur que la peur des soi-disant
fachos.
Voilà, c'est parce que les fachos seront plus rassurants.
Alors attendez,
pour les économies des retraités,
il peut emmener vers le vote. Par exemple, moi, souvent, on m'a demandé entre s'il y a un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen. Je disais toujours, mais j'ai piscine. Enfin, je suis désolée. Bah là, tu vois, je retrouverais le chemin d'un bureau de vote.
Mais parce que tu verras, Ruffin. Le problème, c'est que
il faut que t'en parles à ton mari d'abord, je pense. Avocat.
Le problème, c'est
par la finance et la banque.
Non mais Joël, tu le trouves sympathique parce que c'est l'antithèse de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Mais quand Jean-Luc Mélenchon aura disparu de la course à la présidentielle, François Ruffin, il sera face effectivement à sa volonté quand même de vouloir une révolution marxiste.
Et à mon avis, n'est pas aligné sur ses positions, mais je pense qu'on revient sur la gauche.
Je vous propose d'aller à La Rochelle retrouver Sylvain qui est ouvrier agricole. Bonjour Sylvain.
Bonjour à toute l'équipe et surtout mes plus sincères amitiés à Monsieur Charles Consigny, que j'affectionne et que j'adore énormément.
Merci Sylvain.
Il n'a pas d'amis, Charles.
Je suis content que vous n'ayez aucun mot ni pour Antoine ni pour Joël.
Quel chacun égoïste va.
Alors, Sylvain, comment vous positionnez-vous alors en ce qui concerne le cas Ruffin? Dites-nous.
Bah, c'est que Monsieur Ruffin, moi déjà, il me fait un petit peu peur par son côté révolutionnaire et puis il a cette image de Mélenchon collé à lui, j'ai l'impression. Et puis tout simplement, c'est que pour moi, il n'a pas cette stature d'homme présidentiel. C'est cette aura, cette stature qu'on pourrait dire oui, il pourrait être président, contrairement à la gauche, il y a Monsieur Cazeneuve, par exemple, qui pouvait avoir cette stature-là, par exemple. Bon, moi qui suis de droite, je verrais plus un Édouard Philippe ou peut-être un Laurent Wauquiez. Ces hommes-là ont vraiment une stature qu'on pourrait dire, oui, pour être président, ils ont une carrure, ils ont un aura. Tandis que M. Ruffin, à part être une grande gueule, façon de parler, bien sûr, c'est tout ce que je retiens de lui, malheureusement.
Ouais. Vous voulez quelqu'un qui puisse incarner le pays, incarner la France aussi, c'est ça?
Oui, M. Macron, à l'Europe, il le fait très bien, il n'y a rien à dire, comme était M. Sarkozy. Mais à droite, je sais qu'on a du monde, n'est-ce pas Charles?
Absolument.
Après, à gauche, je ne sais pas, malheureusement, je pense que Joël pourrait peut-être en trouver un, ou si M. Lébig était là aussi, mais je ne vois personne qui pourrait vraiment incarner cette gauche. Avec
il y a Fabien Roussel, le candidat communiste, non, qui a déjà fait... Non.
Moi, je ne suis pas de gauche, mais pour moi, non. Je ne vois pas qui peut représenter cette gauche qu'on pourrait dire, oui, on peut le mettre à la présidence de la République. Je ne vois pas qui aujourd'hui.
Une gauche réaliste ce matin, Fabien Roussel, qui était invité de Nella Latrou sur AMC BFM TV, il a dit oui, il y a une communautarisme dans les quartiers. Oui, il y a une insécurité aujourd'hui dont il faut s'occuper. Alors c'est cette espèce de gauche réaliste. Oui, il y a un entrisme religieux.
Oui, mais...
Voilà, c'est des sujets sur lesquels, d'ailleurs, il se démarque de son parti pour ça. On lui reproche d'être le communiste de droite.
Il y a deux gauches aujourd'hui, quoi. La vieille gauche laïque, très attachée à cette liberté,
et de gauche irréconciliable,
et la gauche et la gauche islamo-gauchiste qui en réalité ne pourront jamais plus s'entendre.
Est-ce que Ruffin peut réconcilier les deux?
Je pense pas.
Si Ruffin se social-démocratise entre guillemets pour apparaître plus convenable et passer le premier tour, c'est l'idée, c'est de réconcilier les deux, la gauche effectivement laïque universaliste avec la gauche plus communautariste.
Mais c'est l'eau et l'huile, quoi. Tu peux plus les mélanger.
Alors si
ils sont tellement tapés dessus, en plus
pas d'incarnation en tout cas pour Sylvain. Toumba est avec nous, des Yvelines, bonjour.
Bonjour.
Conducteur de travaux, et pour vous alors, François Ruffin, est-ce que c'est l'homme qui peut battre Marine Le Pen, qui peut incarner la France? Dites-moi, Toumba.
Oui, il peut battre Marine Le Pen en présidentielle, parce que c'est un candidat qui est axé vraiment sur son côté humain, et qui est vrai, qui dit des choses qui sont sensées, qui a un discours qui est correct. Pas trop dans tout ce que la France insoumise fait ces dernières années, en fait.
D'accord.
Ils sont plus à réagir sur de la polémique Monsieur Ruffin, c'est quelqu'un qui est calme, qui est droit dans son discours, qui est droit dans ses bottes.
D'accord.
Contrairement à l'ensemble des députés de la France Insoumise, que ce soit.
Et il incarne bien le pays, parce que vous avez entendu Sylvain juste avant disait qu'il faut quelqu'un qui incarne la France aussi sur les valeurs, quoi. Vous pensez qu'il l'incarne?
Oui, totalement. Il incarne vraiment le pays. Ben, pour de ce fait, il s'intéresse aux petites gens. Il n'est pas la personne qui va polémiquer sur des choses qui n'ont aucun sens ou lequel les Français s'en foutent. Mmh. Il va vraiment parler du problème des Français, que ce soit pouvoir d'achat.
Il vous ressemble.
Tout à fait.
C'est drôle parce que dans son parcours, c'est un journaliste, hein, Ruffin. Il faut rappeler hein, de son parcours. Son père était cadre. Mmh. Il a fait sa scolarité dans le privé.
Il a rencontré
Emmanuel Macron. Après François Mitterrand n'avait pas non plus travaillé à l'usine et ni François Hollande. Mmh. Mais il est diplômé du CFJ. Enfin, c'est un journaliste au départ.
Ça n'empêche pas qu'il s'intéresse.
Oui, bien sûr.
Jusqu'ici, il n'y a pas ce côté. Ruralité, par exemple, contre banlieue, par exemple, que je peux entendre. Il y a vraiment, comme il l'a dit Toumba, un côté où je m'intéresse aux petites gens. J'aime pas trop cette expression, mais bon. Aux petites gens. Et en fait, quels qu'ils soient, quelque part. Parce que dans son combat, par exemple, sur les femmes de ménage ou les ASH, on avait des femmes qui étaient plutôt en campagne, en ruralité, comme des femmes qui étaient plutôt en banlieue, etc. Donc, en fait, il comprend ce que peuvent vivre les gens de manière générale.
François Ruffin est-il? Merci Toumba, merci Sylvain. François Ruffin, on était du côté de la Charente-Maritime et des Yvelines avec vous deux. François Ruffin, l'homme qui peut battre Marine Le Pen? Question posée pendant un petit quart d'heure. Non, 73,6 non. 73,6.
Personne ne peut battre Marine Le Pen.
À l'heure où on se parle, François Ruffin, il a encore du boulot. Enfin, s'il fait 23 au premier tour, c'est quand même pas mal.
Tout peut arriver.
Allez, dans un instant.
Moi, je crois beaucoup en Bernard Cazeneuve.
45 000 personnes seront bénévoles aux Jeux Olympiques. Mais est-ce que ce sont.
Les Raffarins, personne n'en parle.
45 000 personnes bénévoles ou 45 000 salariés déguisés. Et du coup, ce sont des emplois que l'on pourrait véritablement offrir aux Jeux Olympiques. A tout de suite avec les Grandes Gueules au 32-16.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules, en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui notre trio Joël Dagossé, Richard Consigny, Antoine Dierz. Parlons des bénévoles des Jeux Olympiques. Bénévoles ou salariés? On a du mal à s'y retrouver, là.
RMC, les Grandes Gueules.
Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé.
Les Toulousains de Zebda. Oui, je disais bénévoles ou salariés? Bénévoles ou pseudo-salariés, dans tous les cas, ils sont 45 000 motivés à avoir dit « on s'engage pour les Jeux Olympiques ».
Oui, alors il s'agissait tout simplement de répondre à une demande du comité olympique pour une durée de 6 semaines, sans condition de nationalité. Il était demandé simplement de parler français ou anglais et de disposer d'au moins 10 jours à l'été 2024. 45 000 volontaires, 5 000 pour la mairie de Paris, pour des missions d'accueil, de logistique ou de ramassage de balles également. Des bénévoles recrutés dans les fédérations et qui fait dire à certains que c'est une quand même ce sont des gens qui vont travailler gratuitement. Alors on leur fait miroiter le fait qu'ils vont travailler pour un événement exceptionnel, que c'est formidable, et on peut le comprendre hein, ça doit être sympa de bosser pour les JO parce que c'est une fois dans une vie, mais c'est aussi l'occasion pour quand même le comité olympique de faire des économies puisqu'il y a un budget quand même qui a déjà largement dépassé d'ailleurs, mais qui est quand même serré. Et donc là, on embauche des gens qu'on ne payera pas, qui seront nourris peut-être, pas forcément blanchis d'ailleurs, qu'il faut qu'ils se débrouillent pour se loger. Est-ce que c'est du salariat déguisé,
Joël?
Je sais pas, c'est le principe du bénévolat. Enfin, c'est toujours du travail, le bénévolat, en fait. Moi, j'ai été bénévole, je travaillais. Et sauf que tu choisis de donner ton temps, parfois aussi, j'étais bénévole dans une association pour jeunes, on faisait des sorties, je payais de ma poche les transports, etc. Donc, pour moi,
là, les frais d'hébergement sont à la charge des bénévoles, par exemple.
Oui, alors la seule chose où j'aurais pu faire un petit effort, c'est l'hébergement. Paris, ça coûte extrêmement cher. En plus, les prix vont augmenter, j'imagine, là, avec les JO. Donc, ils auraient pu faire un minimum. Alors, je dis pas 45 000 places, mais en tout cas, ils auraient pu libérer, je sais pas, au moins la moitié. La mairie de Paris aurait pu faire un effort pour libérer au moins quelques places. Notamment pour ceux qui viennent de province. Peut-être pas les Parisiens ou de la région parisienne, mais ceux qui viennent de province. Mais sinon, je veux dire, je vois rien. Vraiment de choquant, parce qu'en fait, dans les métiers, j'ai vu, on dit, il y a des statisticiens, des choses qui auraient pu être des vrais boulots, mais les gens pensent que bénévole, c'est juste distribuer de la soupe au resto du cœur. Non, bénévole, ça, tu peux donner de ton temps, des fois, pour être trésorier dans une association.
Là, c'est une entreprise, quand même, il y a beaucoup d'argent privé, c'est pas tout à fait la même chose.
Bah oui, mais on a déjà dépassé le budget. Enfin,
le resto du cœur, tu travailles pour les plus pauvres, là, c'est pas le cas.
Oui, mais ils savaient à quoi ils s'engageaient. Ils l'ont dit, vous n'allez pas être hébergé, vous n'allez pas être payé. Donc, les gens le font et c'est le principe du bénévolat. Donc, je ne vois pas le problème.
Oui. Antoine,
je pense que tout le sujet, c'est que sont devenus les Jeux Olympiques ? Est-ce que c'est encore une grande fête du sport ou comme dans un club, on a des bénévoles qui viennent donner de leur temps, etc. Ou est-ce qu'on a basculé dans quelque chose de commercial ? Qui serait un truc c'est où des grandes boîtes gagnent de l'argent. Moi, je pense que ça doit rester dans le premier esprit que je décrivais, un esprit sportif où il y a des bénévoles, comme dans tous les clubs de France. Et donc, moi, ça ne me choque pas qu'ils ne soient pas payés, ils sont venus volontairement, etc. En revanche, je pressens quand même qu'à la fin, il y a des boîtes privées qui vont se faire un paquet de pognon sur cette histoire, qu'il y a beaucoup d'argent public qui aura été englouti et que dans ce cas-là, c'est peut-être compliqué de faire travailler des bénévoles si c'est du business. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir, c'est est-ce que c'est une fête du sport ou est-ce que c'est une fête business. J'arrive pas à
trouver. Je rappelle que les jeux sont financé majoritairement par de l'argent privé, hein, puisque c'est Paris de ces jeux, c'est que l'État, en gros, doit mettre 2 milliards et le reste, c'est le privé, même si les budgets vont être sans doute plus importants.
Est-ce que tu peux quand même discerner.
Et c'est les sponsors, notamment.
Tu peux quand même discerner ce qui relève véritablement du bénévolat JO. Et là où tu dis, bon, écoutez, là, finalement, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de placeurs, etc.
Ben, ça sera des bénévoles.
À ce moment-là,
fais la distinction.
Regarde, par exemple, pour l'Euro, tu avais des bénévoles qui étaient là juste pour dire aux gens, il faut passer par là. Et puis après, tu avais un vrai travail d'encadrement ou de plaçage ou quoi que ce soit.
Oui, on va pas leur demander de
salariés.
On va pas leur demander de fouiller
je pense que ça doit pouvoir être distingué. Mais si les 45 000, finalement, tu leur fais faire des jobs.
Ils vont travailler. Ce que dit le député insoumis Corbière, pardon, on n'est pas complètement idiot. Il dit, c'est des jeunes qui vont bosser beaucoup. Ils vont faire plus que 35 heures, d'ailleurs.
Ils vont pas être payés pour ça.
Le fonctionnaire de la ville de Paris bosse 32 heures, mais là, les bénévoles de la ville de Paris vont travailler 48 heures. Et gratuitement. Alors, comme ils sont jeunes, on se dit, on peut les faire bosser beaucoup. On leur donne un repas par jour. Ils sont pas hébergés. Alors, si on leur paye leur transport, donc s'ils viennent de loin, le transport sera remboursé. Et on voit pas bien la frontière entre bénévolat et salariat. Excusez-moi.
Places de match, des places de.
Non, ils n'ont pas de places de compétition. Non,
ils ne vont même pas voir les compétitions.
Tu fais ça pour la gloire. Après, on va te dire, tu peux garder le t-shirt et la chasuble. Sois content. Charles.
Non, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai
je
beaucoup.
Trouve que c'est ambigu, en fait.
J'ai beaucoup d'admiration pour ces bénévoles. Je ne comprends pas bien ce qui les motive.
Plus de 300 000 candidatures.
C'est absolument admirable, donc c'est de prendre part à cette
admirable et incompréhensible.
Non, mais c'est de la sainteté même à ce stade. Je pense qu'on pourrait déposer auprès du Vatican des demandes
de béatification
et de canonisation et soumettre à l'Élysée des nouvelles candidatures pour le Panthéon en cas de décès sur zone par malaise. Mais bon, je rejoins ce qu'a dit Joël, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont gagner beaucoup d'argent avec ces jeux. Mmh. Je pense que dans le comité, il y a quand même à boire et à manger. Je pense qu'il faut regarder. Je pense pas que ce soit si anecdotique que ça, la rémunération des stanguets, etc. Je pense qu'il faut voir exactement combien chaque personne est payée dans cette histoire. Et je crois qu'on aura des surprises. Et donc. Ça peut pas être à la fois une cash machine pour certains et un acte totalement désintéressé pour d'autres.
On leur donner une prime, quelque chose à ces bénévoles.
Voilà, je trouve qu'il faudrait que ces bénévoles.
On donne bien aux
chauffeurs. C'est plus des bénévoles, mais sans leur verser forcément un salaire, auto-horaire, etc. En plus, ça rend dingue, franchement, parce que quand on pense au nombre de fonctionnaires qu'on paye,
les primes qu'on est en train d'accorder en ce moment aux cheminots,
et auxquels on aurait pu demander.
On achète la paix sociale à SNCF.
Et vous avez vu que les cheminots échappent à la réforme des retraites, finalement. Ça, c'est encore un autre sujet. Les cheminots ont trouvé un accord.
Donc d'un côté, il y a des primes
qui fait
en or
qu'ils échappent à la réforme des retraites qui sera appliquée à tous les autres. Donc oui, je pense que on se sortirait la tête haute de ça en débloquant quand même un budget pour verser une prime aux bénévoles, mais je pense qu'on aurait pu mettre davantage à contribution notre armée mexicaine de fonction publique, notamment
Antoine
territoriale.
Nous appelle de l'Essonne de Brunois. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Parce que vous êtes en plus président et entraîneur de hand. Est-ce qu'on a affaire à du vrai bénévolat ou à du salariat déguisé, alors ?
Mais en fait, pour moi, vous débarquez le sport en règle générale. Et ça va de mon club de hand tout petit au PSG, ne fonctionne que par des bénévoles.
Oui.
Et du coup, là, donner la possibilité à des bénévoles, et j'insiste sur le mot, de vivre des JO, de pouvoir se rapprocher d'athlètes, de compétitions ou quoi, mais pour les bénévoles, c'est vraiment une belle opportunité. À ce moment-là, ils demandent rien parce qu'ils sont en train de vivre leur passion. Nous, tous les week-ends, tous les bénévoles qui font tourner tous les clubs de France, ils gagnent pas un euro.
C'est du foot amateur.
Et c'est du foot amateur. Les enfants qui accompagnent le PSG sur les terrains ou les ramasseurs de balles, ils participent au football professionnel. Ils vivent un rêve et pourtant ils prennent 0 euro. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de leur passion.
Oui, mais est-ce que c'est pas de l'exploitation finalement de gens, de la motivation des gens ? Parce que on nous dit, par exemple, et c'est Corbière qui parle, qui dit que ça va dégager 9 milliards d'euros de profit des JO. Alors certes, ça va rembourser ce que ça a coûté, mais moi, c'est deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on voit quand même, effectivement, des gens qui sont grassement payés, notamment les membres du CIO, du comité olympique, des primes qu'on offre à tous les fonctionnaires qui sont mobilisés, et c'est normal de donner, mais bon, en ce moment, il y a quand même des bonnes négociations et le patron de la SNCF est en train de céder sur tout, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir 45 000, surtout des jeunes bénévoles, à qui on dit bah, écoute, t'auras un sandwich à midi et cime-toi heureux.
Moi,
je trouve que c'est deux fois de mesure.
Il faut le voir des deux côtés. Hein. Parce qu'il va y avoir aussi des milliers d'euros, ou des millions, ou des milliards, j'en sais rien, qui vont être redistribués à des fédés, je sais pas, à la fédération du tir sportif, ou du tir à l'arc, ou de l'escalade. Heureusement qu'il y a les JO, et encore plus cette année à Paris,
pour qu'ils prennent un peu d'oseille,
parce qu'avec ça, au niveau médiatique, ils n'auraient rien du tout, sinon.
Bien sûr, vous avez raison.
Donc ça participe aussi à ça. Parce que s'il faut rémunérer les bénévoles, c'est de l'oseille qu'il va falloir reprendre dans une autre
poche. Peut-être pas les rémunérer, mais leur donner plus qu'un repas par jour.
Mais vous donnez
au moins des places pour les compétitions.
Moi, je suis quelqu'un qui fait un travail normal. Hein. Pouvoir aller voir un match de hand gratuitement, pouvoir serrer la main à des joueurs et pouvoir rentrer dans les vestiaires, ça me suffit largement parce que c'est quelque chose que j'aurais fait que 2-3 fois dans ma vie.
Ouais, c'est l'occasion de le faire.
C'est juste.
C'est vrai.
Vous êtes sûr qu'il va pouvoir le faire au moins ?
Pas tous.
Bah, j'espère au moins quelqu'un qui fait la sécurité autour d'un stade pendant une semaine. J'espère que pendant la compétition, il a le droit au moins de regarder.
Alors là, Antoine Walou.
Je
vous le signe maintenant, là, si vous voulez. Je vous signe une quille.
Les
si
gens, il y en a qui veulent vivre les jeux de l'intérieur.
Les bénévoles qui sont en cause. Pardon, mais je comprends qu'on ait envie d'être bénévole.
Mais eux, ils savent à quoi.
La façon dont on les traite.
Oui, mais est-ce que. Alors, si les bénévoles. Parce qu'il y en a plein. Je crois qu'il y avait 300 000 inscrits. Et puis à la fin. Il y en a qui se sont désistés. Il y en a peut-être qui vont encore se désister parce qu'ils n'auront pas le logement. Donc, à la fin, ne restera que ceux vraiment qui souscrivent à cet engagement.
Justement, est-ce qu'on ne profite pas de cette motivation qui est compréhensible ? Est-ce qu'on n'exploite pas la motivation, sachant qu'à côté, il y a énormément d'argent brassé, si tu veux. On va faire des jeux qui vont coûter 12 milliards d'euros, finalement, hein, au lieu des. Et derrière, on dit, les 45 000, votre passe Navigo sera remboursé.
Je remercie Antoine d'avoir été avec nous et très admiratif de sa foi
en
les JO. Antoine, parce que écoutez le témoignage de Patrick qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Votre fils va se retrouver embringué dans les JO, lui.
Oui, tout à fait. Alors donc je résume rapide. Interne en médecine d'urgence, donc il est médecin, encore étudiant, avant de devenir docteur. Il a donc été sollicité pour participer au maintien de la cellule médicale du village olympique.
D'accord.
Où il y aura 40 000 personnes tout de même.
Mmh.
Et on lui dit, vous vous débrouillez pour vous loger. Bon, les étudiants en médecine ont des réseaux, ça va, ça c'est réglé. Par contre, on lui dit également, ben, vous paierez vos repas. Vous-même, vous vous débrouillez. Il n'y a pas de sandwich, il n'y a rien.
Il n'y a même pas un repas à midi parce que c'était pourtant ce qui est prévu.
Non, il n'y a pas.
Ah bon ?
Ils payent. Ils ont une cafétéria, mais ils payent. Et donc, en fait, ils vont se taper des gardes de 12 heures, comme ils font à l'hôpital. Et en fait, on leur dit, bah, vous paierez de votre poche.
Ah, alors, c'est choquant.
Ce qui, moi, me choque, je suis chef d'entreprise. Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que, a priori, vous vérifierez, vous ferez vos recherches, a priori, l'organisateur de la cellule médicale est le même qui fait l'organisation de la cellule médicale de Roland-Garros.
D'accord.
Et moi, je me pose la question, il y a un business derrière.
Oui. Il le fait gratuitement, lui ?
Lui, il ne le fait pas gratuitement.
Il a posé la question.
C'est une bonne question, effectivement.
Voilà. Vous aurez peut-être la réponse qui vous surprendra. Moi, je trouve que, voilà, on a des internes en médecine qui font 50 heures par semaine minimum. Ça, vous le savez tous. Hein, de toute façon, quand vous êtes à l'hôpital, en interne, c'est bon. Et qui vont poser leur congé annuel. Ils prennent sur leur congé annuel pour venir au jeu.
La motivation profonde de votre fils, c'est quoi ? Il est fan de sport ? Il veut profiter de l'instant ?
Alors, d'abord, effectivement, moi, c'est ce que je lui ai dit. Hein, j'ai dit, vas-y, parce que tu le reverras pas deux fois dans ta vie. C'est normal. Donc, il y a cette motivation. Il y a le plaisir de découvrir d'autres choses. Vous comprenez ? Voilà. On ne met pas en cause le fait qu'il ne soit pas rémunéré. Oui, il s'en fiche.
Ouais, d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut que tout soit pris en charge. À ce moment-là, Patrick, c'est-à-dire le logement, la nourriture. Vous soyez logé, nourri, blanchi, comme dit l'expression. Patrick, c'est une histoire à creuser. À mon avis, ça va monter, ces histoires autour des bénévoles.
Mais oui.
On a posé la question, est-ce que pour vous, ce sont les salariés, des salariés déguisés, les bénévoles des Jeux Olympiques?
Nos gauchistes d'auditeurs vont dire oui.
Ils sont plus de 45 000. 84% de oui, c'est du salariat déguisé.
C'est pas des gauchistes. Oui, mais c'est quand même formidable qu'il y ait des bénévoles.
Mais il faut qu'on
arrête de chouiner en France. Parfois, il faut faire les choses de manière désintéressée, par passion, sans être là à vouloir gratter sa petite rémunération, sa petite compensation, sa petite cotisation aux retraites. Et attention, oh là là, il est 18h02, je devrais déjà être parti depuis 10 minutes, et nanana, mais il y a des baf qui se perdent dans ce pays de branleurs. Moi, je trouve ça formidable que ces jeunes soient suffisamment passionnés par ces jeux pour s'engager comme bénévoles. Moi, ça m'arrive comme avocat de défendre certains dossiers gratuitement, juste pour le plaisir de prendre le dossier, parce que la cause me touche, parce que machin, et je vais rester jusqu'à je ne sais quelle heure au tribunal, et je m'en fous, ça me fait plaisir de le faire. Donc, franchement, cet étudiant de médecine, c'est quand même ce que la France fait de mieux, ça. Il est étudiant en médecine, il est déjà dévoué à full time dans un truc incroyable.
Et il doit se démerder.
Et en plus, il est suffisamment pas. Alors, je suis d'accord avec vous. Voilà, il faut qu'ils soient traités dignement. Mais qu'on commence pas à dire qu'il faut les rémunérer que ceci, que cela.
Donc, t'es un gauchiste comme les autres, Charles.
Allez, à tout de suite avec les grandes.
Réjouissons-nous d'avoir ces jeunes.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre trio de grandes gueules est Antoine Dierce, Charles Consigny, Joël Dagosséry. On va passer avec vous, bien sûr, au 32-16, au GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Vous vous souvenez qu'en 2019, le Parlement avait adopté une loi qui interdisait le droit de correction, en fait, les violences contre les enfants. Et puis, on a cette affaire qui remonte à octobre 2022 qui met en cause un policier. Et c'est l'un de ses fils qui est allé porter plainte en expliquant qu'il subissait les violences de la part de son père, policier depuis l'âge des 5 ans. Les parents étaient depuis l'âge des 5 ans séparés. Il racontait que son petit frère de 9 ans aussi les subissait. Et il disait, quand on fait des bêtises, on se fait étrangler, on se fait coller contre le mur. On est terrifié à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a eu à Thionville un procès en première instance. Le père a été condamné à 18 mois de prison assorti d'un sursis probatoire de 2 ans, comprenant notamment obligation de soins, stage de responsabilité parentale et plus de contact avec la mère des enfants. Sauf que, en appel, le même policier a contesté les violences. Il a reconnu une éducation qu'il a qualifiée lui-même de rude sur ses fils. Il dit « Oui, j'ai peut-être tiré les cheveux, j'ai mis des fessées ». l'avocat, comme c'est une histoire de divorce, a plaidé l'instrumentalisation. Mais voilà ce qu'a dit la Cour ensuite concernant l'effet de violence sur les deux enfants. Elle a reconnu les fameuses gifles tirées les cheveux, mais elle a évoqué le droit de correction reconnu aux parents dès lors qu'ils n'ont pas causé de dommages à l'enfant et qui reste proportionné. Tout parent a le droit à une force mesurée et appropriée. Donc, cet homme a finalement été relaxé. Alors, s'il pourvoit maintenant en cassation, ça choque les associations de défense familiale. Est-ce qu'on peut reconnaître un droit de correction parentale proportionné? Oui, pour Antoine. Non, pour Joël, Olivier et Charles. Mon cher Antoine, à toi de t'expliquer en 60 secondes. Et puis ensuite, vous venez en parler avec nous au 32-16.
Alors, en introduction, je suis bien obligé de préciser que je ne suis pas favorable au châtiment corporel pour les enfants, bien entendu. En revanche, dans le cadre, dans l'espèce aujourd'hui, on est dans un contexte de divorce où, bien souvent, on reproche au père d'être terrible avec ses enfants. C'est quelque chose de très difficile à démontrer, tant d'un côté que de dire qu'on n'est pas responsable. Et donc, je trouve ça assez légitime que les juges puissent dire que dans le cadre d'une éducation des enfants, il puisse y avoir une exemption de peine pénale pour certaines punitions corporelles, à condition bien sûr, comme le juge le dit, de ne pas causer de dommages à l'enfant, que ce soit proportionné au manquement commis et qu'il n'y ait pas de caractère humiliant. Et donc vraiment, je me dis, tiens, dans cet océan de bien-pensance, de temps en temps, un juge fait preuve d'un peu de discernement et considère que oui, il y a eu peut-être des gestes d'éducation un peu rudes, un peu forts, mais qu'il ne faut pas sanctionner le père.
Joël, Charles?
Comme vous voulez.
Charles, vas-y, mec.
Non, moi, je
c'est une décision de justice qui surprend beaucoup.
Non,
hein.
C'est une décision abominable. Je trouve ça abominable, les violences même légères sur les enfants. Et dans l'ensemble, je trouve que les parents prennent trop de liberté sur leurs enfants. Si c'est pour hurler sur les gosses toute la journée, autant ne pas en faire. Je vois tout le temps, partout, des parents qui sont exaspérés par leurs enfants, que la moindre... le moindre désordre gêne, et ils veulent avoir des enfants bien sages, etc. Et il s'agit de dresser les enfants, on leur impose des horaires, ils doivent finir leur assiette, ils doivent aller se coucher avant telle heure, on ne peut pas aller faire tel jeu, etc. Certains parents éduquent leurs enfants comme si c'était des animaux sauvages. Je trouve ça absolument insupportable, et je pense qu'en plus, il n'y a pas un pédopsychiatre, un spécialiste du sujet qui vous expliquera que une éducation dure est une bonne chose pour les enfants. Il faut tout s'explique au contraire qu'il faut leur foutre la paix le plus possible, sans en faire des enfants rois. Leur foutre la paix, ne pas leur imposer 500 000 contraintes en permanence, ne pas leur
tu
hurler
crées des
dessus,
enfants rois sans contraintes.
Et ne certainement pas les taper. D'ailleurs, les écoles qui maintenant sont plus sur ce mode-là sont plébiscitées par les parents qui ont les moyens de les y mettre, c'est-à-dire Montessori, l'école alsacienne, etc. C'est parce que précisément ils savent que les enfants seront respectés et ne subiront pas une éducation trop dure. Donc je suis pour non seulement l'interdiction totale et la répression totale des violences physiques sur les enfants, mais je pense également qu'il faut arrêter de brutaliser psychologiquement les enfants. Et enfin, je dirais même que ça, je vais même plus loin que ça. Pourquoi est-ce que on devrait tous être éduqués à être sages, obéissants, domestiqués? Qu'est-ce que c'est que cette société de robots et de soumis? Moi, quand j'aurai des enfants, quand j'en ferai, d'abord ils seront
élevés,
ils seront élevés par des nurses parce que j'ai autre chose à faire que d'élever des enfants.
Ils seront malheureux.
Mais elles auront consigne.
Ils n'iront jamais leur père.
Elles auront consigne. Ils viendront faire un bisou avant d'aller se coucher, comme on faisait au 19e siècle, c'était très bien. et elles auront consigne de leur laisser toute liberté.
Ils
viendront en bout de table, le majordome les introduit réfléchira. Et voilà. Mais je pense que vous me faites perdre le fil de ma
pensée. Tu dis que tu ne veux pas forcément qu'on ait tous des enfants.
Moi, je ne veux pas. Je suis domestiqué. Et enfin, je trouve très français aussi cette manière de briser les rêves, de tout interdire, de tout réglementer. Je pense qu'il y a d'autres pays où on éduque avec plus de liberté et ça fait des peuples moins administratifs. Voilà.
Je suis assez d'accord avec toi, sauf que
avec Joël, on va peut-être sortir de cette équipe. Hein.
c'est dur. Charles, tu considères l'enfant comme unique. Il serait forcément gentil, bienveillant et brisé par un système.
Non, je dis qu'il faut lui foutre la paix.
Tu dis les parents privilégient les écoles de bienveillance Montessori. Ouais, il y a aussi un paquet de parents qui cherchent des internats bien durs parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir avec leurs parents.
Et
donc,
c'est
de plus en plus
général,
de privés.
Parce qu'ils ont gueulé sur leur gosse pendant leur enfant.
Je suis pas sûr que ce soit ça. Et donc, en fait, il n'y a pas un enfant unique. À mon avis, chaque enfant a besoin de réponses différentes.
Ça, c'est vrai aussi. Joël.
Non, mais j'aurais pu me retrouver avec Antoine.
On n'est pas loin de
changer de. mais parce que la question, si elle n'était pas appliquée à ce cas précis, j'aurais dit effectivement oui. Cette façon de ne absolument pas vouloir toucher à l'enfant, ça fait des enfants qu'on retrouve aujourd'hui dans les écoles et dont on dit oh là là, on s'en sort plus, ils sont intenables, etc. Ils ne supportent pas l'autorité. Simplement, dans ce cas, ce qui me gêne, c'est quand même un papa, je crois, qui a été aussi condamné pour violence envers sa femme. Et je crois qu'un enfant, pour l'avoir été un peu brutalisé, comme on peut dire, par mon ex-beau-père, je crois qu'on sait faire la différence entre une correction, je dirais classique. Voilà, j'ai aussi eu des fessées de la part de ma maman, de mon papa. J'ai jamais traité ça de maltraitance. Et quelqu'un qui te tire les cheveux, parce que je l'ai aussi eu, qui te tire les cheveux et qui te colle au mur et qui t'étrangle. Ça, pour moi, enfin, quand un juge entend ça et qu'il dit c'est pas très grave, c'est un droit à la correction, honnêtement, c'est comme l'a dit Charles, c'est abominable. Enfin, je crois qu'on, je sais pas qui sont ces juges, mais de qualifier ça de droit à la correction, ça c'est un droit à la maltraitance.
Je suis pas sûr que le juge ait validé ces faits-là.
Mais il faisait partie du dossier. Hein.
C'est pour ça que moi, comme Joël, j'ai rejoint ce camp-là. Je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Charles sur les enfants. Ils sont trop brimés. Je crois au contraire, ils ne sont peut-être pas assez. Il y a un problème d'autorité. On le voit tous les jours dans l'actualité, malheureusement. En revanche, là, je crois qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui est violent. Et que là, le juge a manqué de discernement, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose de parfois, parce que tu perds tes nerfs, de crier sur ton enfant, et parfois lui mettre une fessée, et tu le regrettes après, parce que mais en même temps, c'est ça, parce qu'être enfant, il faut foutre un peu la paix aux parents, hein, c'est du pragmatisme, hein, d'être parent, les enfants, voilà, on fait ce qu'on peut. Là, visiblement, on a affaire quand même à quelqu'un qui a l'air d'être violent, qui a été violent, visiblement, avec son ex. Et qui serait violent si avec ses enfants. Et je me demande si les juges n'ont pas passé à côté de quelque chose. Mais,
attendez, tu dis qu'il a l'air d'être violent parce que une première décision l'avait condamné pour violence. Là, il y a appel et il n'est pas condamné. Ouais. Donc il n'est pas violent. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire. Mais il y aura un recours en cour de cassation. Mais soit la première décision s'applique, soit et donc tu considères qu'il est violent, soit elle est cassée en appel et donc tu considères qu'il n'est pas violent.
C'est-à-dire
que tu reconnais, tu as une espèce de double légitimité.
D'accord, mais
tu
reconnais les faits. Il reconnaît qu'il est dur.
Une éducation rude, il a dit. Je ne sais pas s'il a reconnu ces faits-là.
J'ai simplement tiré les cheveux ou mis des fessées.
Il l'a reconnu. Ok. Tirer les cheveux, c'est pas terrible.
Rude.
Tirer les cheveux, c'est pas
une éducation rude. Donc dans sa bouche, à mon avis, c'est un homme qui a du mal à maîtriser sa violence.
Droit de correction reconnu aux parents dès lors qu'elles n'ont pas causé de dommages à l'enfant et qu'elles restent proportionnées.
C'est ce qu'a dit la
cour d'appel.
Qu'est-ce qu'ils appellent dommage
tout
à l'enfant?
Tout parent a le droit à une force mesurée et appropriée.
Mais qu'est-ce qu'ils appellent sans dommage?
Pas de séquelles.
Parce que en fait, oui, mais pas de séquelles, peut-être physique.
Si
y en a
tu
pas.
Brises un os,
peut-être physique, il n'y en a pas, mais psychologique.
La commotion cérébrale.
Psychologique, si ton père te colle au mur, t'étrangle, et te tire les cheveux. Enfin, je veux dire, c'est.
Je suis d'accord avec toi.
Mais il faut du discernement. Et Charles a pris les lunettes de Joël. Et donc, perdu.
Par exemple,
on aurait dû le mettre à l'institution Saint-Malthus pour reprendre un
peu.
Joël devrait avoir une réponse dans ces cas-là.
Mais on est souvent témoin. Je suis désolé. On est souvent témoin.
Dans l'arcade.
Moi, je trouve, dans les transports en commun, ça arrive souvent de voir, moi, ça, je vois souvent des comportements de parents vis-à-vis de leurs enfants que je trouve choquants. Mmh. Et qui me donnent envie d'intervenir. Bah, je trouve que souvent, les parents parlent mal à leurs enfants, sont trop durs, leur refusent des choses de manière totalement. Et en fait, passent leur nerf
dans le métro,
sur leurs enfants.
Dans le métro, dans le train, je vois surtout.
Ils sont satisfaits de leur propre vie conne. Ils le transfèrent sur leurs enfants. Mais c'est très, c'est ça.
Moi, je vois le contraire. Donc, tu fais quoi? Tu fais un permis de parents? Complètement laxiste, avec des enfants qui foutent des coups de pied dans le siège, qui montent, qui crient, et t'as le parent qui est à côté, juste, tu vas arrêter Antoine?
Non. Écoute, évidemment, c'est moi, évidemment.
T'as pu dire, tu vas arrêter Charles, c'est
visible. Moi, je suis pour qu'on foute la paix aux gosses.
Non, moi, je change d'équipe. Je vais avec Antoine.
Vous êtes trop à droite.
Joël, change d'équipe.
Non, parce que je peux pas entendre ce discours.
Eh bien, écoutez, vous avez entendu ce qu'en disent les GG. Droit de correction parentale proportionné, force mesurée et appropriée, a reconnu la cour d'appel à ce père qui a reconnu qu'il mettait des enfants, qu'il mettait des fessées et qu'il tirait les cheveux. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules, et vous saurez qui va l'emporter, bien sûr.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.